Salut, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue, c'est Seb et c'est une nouvelle diffusion de Si les 90s m'étaient comptés, l'émission rock et style de vie années 90 de CFM et la Kicking Radio. Alors comme d'habitude, on est ensemble pour une heure pour évoquer ces années où il y avait du vrai rock à la radio, des téléphones portables qui ne servaient qu'à téléphoner, des téléviseurs à tubes cathodiques et des cassettes VHS, et où on rêvait de pouvoir se payer des chaussures de basketteur avec une pompe intégrée pour les ajuster à son pied. Bref, vous l'aurez compris, cette émission c'est une machine à remonter le temps, et on va l'actionner tout de suite, direction 1992 avec Sublime et 40 Oz to Freedom, un titre d'une coolitude absolue pour commencer cette émission tout en reggae.
Pas de numéro, je les connais tous par cœur. À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
We'll be right back. know she cares. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home.
Juste derrière Sublime, je vous ai calé les pas très fins Blink 182 et All the Small Things qui passent sur le fil de la sélection de Silly Nineties m'était compté puisque ça date précisément de 1999 et de leur troisième album Enema of the States. Il est temps maintenant de s'écouter un premier extrait de notre disque indispensable à toute discothèque qui se respecte et j'ai choisi pour vous aujourd'hui le King for a Day, Full for a Lifetime des Friscoans de Faith No More. C'était leur cinquième album et ça nous ramène tout droit à 1995. Comme à chaque émission, vous le savez, on attaque toujours par un petit éphéméride, histoire de se replonger dans l'air du temps. Voici un petit récap de l'actu de l'époque pour la deuxième quinzaine de mars. Et on commence avec le 17 mars 91, c'est la sortie de Street Fighter 2, SF2 pour les intimes. Le principe, vous choisissez un combattant parmi les 8 personnages du jeu, Ryu ou Ken, des personnages très maniables, ou Honda et Zangief, l'un c'est un sumotori, l'autre c'est un catcheur, des mecs massifs mais puissants, ou alors vous avez aussi le droit à Chun-Li, Dalsim ou Blanka, à moins que vous préférez Guile qui est un guerrier. Et bien après, la suite c'est très simple, ça s'appelle Fight. Le 18 mars 95, alors qu'il avait décidé en 93 à seulement 30 ans de quitter le monde du basket pour entamer une carrière de joueur de baseball, Michael Jordan annonce son retour aux Chicago Bulls et dès son premier match, Air Jordan inscrit 19 points contre les Pacers de l'Indiana. Le 20 mars 91, Michael Jackson renouvelle son contrat Sony contre une somme bien rondelette, 65 millions de dollars. En contrepartie, le King of Pop s'engageait à sortir 6 albums pour Epic sur une durée de 15 ans. Le 21 mars 1994, c'est la sortie du film de Spielberg, La Liste de Schindler, un film qui a fait pas mal pleurer de gens à l'époque et qui a aussi ramassé pas mal de récompenses. Le 27 mars 1996, c'est la sortie de Toy Story, le premier long métrage entièrement réalisé en images de synthèse. Et on termine avec le 30 mars 1992 du cinéma encore avec Jodie Foster qui gagne un Oscar pour son rôle dans Le Silence des Agneaux. Voilà, c'était l'éphéméride. Tout de suite, retour à la musique d'un ciné 90s m'était compté. Après les gros tubes du début de l'émission, on va s'envoyer un truc nettement plus obscur, un truc d'initié quoi. Voici Capone et Henry, premier single de leur premier album, Ugly Dance de 94.
C'est pourtant pas compliqué. Elle rentre à la maison vers 10h moins le quart, d'accord? Et ça, c'est un fait. Elle revient de son service de nuit à l'hôpital. T'es venu pour envoyer un SOS? Tu dois téléphoner à tes petits copains? Alors envoie-le ton SOS et barrez-vous avant qu'elle réplique.
We'll be right back.
On va rester au rayon curiosité du chef avec le disque qui vient. Un autre groupe devenu culte, en tout cas pour les fans de noise rock bien abrasif façon Amphetamine Reptile Records. C'est Gezard, un trio de Minneapolis. Un trio qui a été actif entre 91 et 96. Le titre c'est Supersonic Enemy of Evil et c'est extrait de leur album de 95, Quick Fast in a Fury. Voilà, vous savez tout. Tout de suite, je vous envoie Gezard dans les tympans.
Vivez cette journée comme si c'était la dernière.
Je veux pas mourir.
Ça, c'était du gros tube et vous avez sûrement reconnu les Smashing Pumpkins avec Today. On était en pleine folie grunge en 93, année de sortie de Siamese Dream, leur très recommandé deuxième album. Pour l'anecdote, sachez qu'en 2007, Billy Corgan, le leader des Smashing Pumpkins, a cherché à retrouver en vain les deux petites filles qui étaient sur la pochette de l'album. Et ce n'est qu'en 2011 que Nicole Fiorentino, qui est l'actuel bassiste du groupe, lui a révélé que par le plus grand des hasards, elle était l'une des deux et qu'elle n'avait jusqu'alors pas voulu lui en parler, de peur que ça lui porte préjudice pour intégrer les Smashing. Allez, il est l'heure de sortir notre premier dossier du jour. Aujourd'hui, je vous parle d'un disque et plus particulièrement de sa pochette. C'est la pochette du premier album de Rage Against the Machine. Oh. 3 novembre 92, Rage Against the Machine sort son premier album éponyme et grâce à sa fusion ultra contestatrice, mêlant rap, punk et metal et à sa pochette représentant un bonze en train de s'immoler, le gang de Zach de la Rocha et Tom Morello va durablement marquer les esprits. Faut dire que ce cliché, avant de faire le tour du monde en 92 grâce à ce disque, il avait défrayé la chronique quelques 30 ans plus tôt dans les années 60, en 63 plus exactement. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Nous sommes le 11 juin et Thi Quang Duc, c'est un bonze vietnamien qui est originaire de Hue au centre du Vietnam, et bien, il rallie Saigon, la capitale, au volant d'une Austin bleu ciel et arrivé à l'intersection de Phan Dinh Phung Street et Lee Van Duyet Street. Il gare sa voiture, ouvre le coffre et attrape un bidon d'essence. Aussitôt, il s'assoit en position du lotus au milieu du carrefour, s'asperge d'essence et craque une allumette. Prévenu à l'avance que quelque chose de spécial allait avoir lieu, Malcolm Brown, photographe d'Associated Press, et David Halberstam du New York Times sont témoins de la scène. Le premier tire le cliché, qui va terminer sur l'album de Rage Against the Machine, tandis que le second rapporte la scène dans son journal. Derrière moi, je pouvais entendre les sanglots des Vietnamiens qui se rassemblaient. J'étais trop choqué pour pleurer, trop confus pour prendre des notes ou pour poser des questions, trop déconcerté pour penser. Pendant qu'il brûlait, il n'a jamais bougé, jamais poussé un cri, son calme contrastait radicalement des pleurs des personnes qui se trouvaient tout autour de lui. Par ce geste, le bonze entendait protester contre l'oppression que subissaient les bouddhistes au Vietnam, en particulier de la part du président qui était un fervent catholique. Le bonze, lui, il avait préparé durant plusieurs semaines de méditation son geste et il avait même expliqué ses motivations dans plusieurs lettres qu'il avait adressées à la communauté bouddhiste et au gouvernement du Sud-Vietnam. Le lendemain de son suicide, le président Kennedy avait la photo sur son bureau. Il a été extrêmement choqué, il a appelé immédiatement l'ambassadeur américain au Vietnam et lui a signifié que ce genre de choses ne devait pas se reproduire. Et c'est à partir de cette date que les Américains ont commencé à se désengager au Vietnam Sud. Quant au bonze, lui il est devenu pour les bouddhistes un vénérable dont on célèbre toujours la mémoire dans une pagode à Saigon et où l'austin bleu ciel qu'il a utilisé pour son rendez-vous avec la mort est toujours exposé dans son monastère. Vous êtes dans Si les 90s m'étaient comptés. Et si vous nous rejoignez maintenant, sachez qu'on vient de s'écouter Rage Against the Machine et Wake Up. Du rock, de la teenage culture des années 90, c'est le programme de cette émission. On continue d'ailleurs toujours en musique, avec un groupe qui a connu ses années de gloire durant ces années-là, mais qui est toujours actif et qui nous sert régulièrement des disques toujours de grande classe. Le bassiste et le chanteur-guitariste sont francophones, ils ont grandi à Paris, mais c'est bien de New York qu'ils nous ont balancé ce titre. Un titre tiré de The Proximity Effect, leur deuxième album de 98. Voici Nada Surf, avec un titre français, en tout cas pour l'intitulé. Voici Amateur.
Montre-moi ce mouvement de jambe que tu faisais.
On vient de remonter au tout début des 90s, 1992 pour être exact, avec les filles de L7 avec Everglade. Un titre extrait de Bricks Are Heavy, encore une référence de cette vague grunge de 91-92. Un chouette mélange d'ailleurs de punk rock et de heavy, le tout astiqué par une belle production signée Butch Vig, le monsieur qui était en particulier derrière les manettes pour le Nevermind de Nirvana, et ça s'entend aussi sur le Bricks Are Heavy de L7. Allez, j'attrape le deuxième dossier, juste après ce jingle. Pour ce deuxième sujet, on va parler ciné, plus particulièrement d'un film. Un film qui mêlait dessins animés et images tournées avec de vrais acteurs. Je veux parler de Space Jam des studios Warner, un film sorti en novembre 1996 et qui avait cartonné pour les fêtes cette année-là. C'était un film à gros budget, 80 millions de dollars, mais il en rapportera quand même 90. Pourtant, on peut le dire, c'est pas grâce à son scénario, parce que Space Jam, le scénario est tourné simplement en trois lignes. Michael Jordan dans son propre rôle, tiens, je vous parle encore de Jordan, décidément c'est une obsession dans cette émission. Michael Jordan vient de prendre sa retraite de basketteur, et il se lance dans le baseball, ça c'est la réalité. Et sur la planète parc d'attractions Moron Mountain, des extraterrestres, eux, doivent aller chercher leur nouvelle attraction, les Looney Tunes. Alors ils débarquent sur Terre, ces fameux extraterrestres, et ils se frottent immédiatement aux Looney Tunes, mais bizarrement, ils défient les Tunes au basket. Et vu que les Tunes sont très mauvais au basket, ils n'ont plus qu'une seule solution, hop, on retombe sur nos pieds, ils vont chercher la légende Jordan, et le convaincre de rechausser les baskets montantes pour les entraîner pour ce fameux match contre les extraterrestres. À la clé, on a droit à une super comédie familiale avec la big star NBA du moment, Is Ernest Michael Jordan, entouré de plein d'autres joueurs comme Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing et aussi d'excellents acteurs comme Bill Murray ou Wayne Knight. Alors c'est une comédie qui est bien rythmée, évidemment pleine d'humour, un peu potache parfois, ça joue sur pas mal de clichés, notamment l'autodérision. Space Jam, c'est du pur divertissement, le genre de truc que savaient faire parfaitement les studios américains durant les 90s. On se marre bien tout au long du film, jusqu'à évidemment l'affrontement final, un face-à-face d'une demi-heure où Michael Jordan fait son show et se révèle un sacré entertainer. Techniquement, c'est aussi une belle réussite. L'intégration des Toons sur les images réelles est impeccable. Faut bien rappeler qu'à l'époque, l'imagerie de synthèse n'était encore qu'à ses balbutiements. Côté bande originale, la Warner avait bien fait les choses avec une BO qui cartonne, typiquement 90s avec du hip-hop à 100%, avec notamment un méga tube, Hit 'Em High, avec B-Real, Coolio, Method Man, Lil Cool G et Busta Rhymes. Et puis il y avait aussi I Believe I Can Fly de R. Kelly, mais bon ça, je vous avoue que j'ai pas beaucoup accroché. Dernièrement, j'ai lu aussi que court la rumeur de la mise en chantier d'un Space Jam 2 avec le meilleur basketteur US du moment, le meneur du Heat, LeBron James, qui est aussi un grand fan de la version originale, mais pour l'instant, le grand LeBron affirme ne pas être au courant. Il va falloir donc être patient pour revoir les Toons jouer au basket sur grand écran. Allez, on s'écoute tout de suite un petit extrait de cette bande originale de Space Jam 2. Voici toute la bande de B-Real, Coolio, Method Man, etc., etc., avec Hit 'Em High.
Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.
Hit 'em high, and you hit 'em low, hit 'em low. Going straight to the hole. You ain't got no game. I'm breaking you out the frame, coming through like a train. Looking to take over the whole world is my goal. With my unstoppable crew, taking all control. You can't get none of this. We're running this. Well, take up, Earth Shaker, 3-point gunning this. Get out the lane. I'm coming through, and if you don't wanna move, I'm coming right through you.
It's like inch by inch and step by step. I'm closing in on your position, and destruction is my mission. No, eight is not enough. The whole squad better duck. It's like switch when I bust. Now your whole crew is dust. Coming through my area, I'ma have to bury you. The real scream team on your screen scene. It's like showdown under Rego. Tell me who won the tango. We're together, which got the neighborhood superhero.
On it all.
Ultimate pain up on the brain, untamed. You don't like it when I change, and you a type strange. Make low maniacal, monster in the game. And I got my eye on you, dead shot aim. As free throws keep
coming down like rain. You feeling me? I'm feeling you. The monster bang. I'm telling you. Pass me the rock. Now I'm headed to the basket. Get up on my way. It's what you better do. My tactics is unsportsmanlike conduct. You better ask it. Don't get no better than it. You catch my drift. You get stripped by ball handlers, rule by swag hammer. Danger. You dealing with official hoop banger with hang time like a coat hanger. Jump with thunderous 360 degree tight dunks. What up, Dr. Monster Funk? Lightning strikes, the court lights get dim. Supreme competition is about to begin. Above the rim, finessing it, moves is animated. Once I get the ball in, I can't be deflated. A rugged paw, my monsters is getting money. When clicks get the bugging, I'm snatching up their bunnies. Every step I take shakes the ground. I make you break your ankle, son, shake you down. This is my planet, about business. The best that ever done it, can I get a witness? A cumulus cloud bring darkness up above. You in it for the money or in it for the love, MJ? 23 ways to make a pay. Lounging in the mothership back around my way. A 28 light years old. If the refs get political, dribble like Bob Dole. Am I getting lyrical? Daddy, I think so. Monster dropping flavor fluid, so drink slow.
Les amis, je vous préviens, on arrive quasiment au terme de cette émission. Une petite chronique, un dernier titre et je ferme le rideau. C'est bientôt l'heure de se quitter. Durant les 9 ans de sa carrière météorite, Face No More aura su jouer les défricheurs et briser pas mal de clichés inhérents au style où on l'a souvent à tort rattaché, le métal. Car voilà, ben Face No More c'était avant tout un putain de bon groupe de rock. Et King for a Day, Fool for a Lifetime qui nous intéresse aujourd'hui en est la démonstration. Je vous mets au défi de faire entrer ce disque dans une case musicale, c'est tout simplement impossible. Même l'étiquette Passepartout Fusion, une étiquette typiquement 90s ne tient pas, tant les friscoans. Je précise que les Friscoans sont les habitants de San Francisco. Ballet est large, même très très large. On a évidemment droit à une bonne dose de Face No More pur jus, un mélange de rock alternatif calibré et de métal à tendance mélodique, ce qui nous vaut des hymnes comme les énormes Dig in the Grave, Ricochet, What a Day ou Gentle Art of Making Enemy. Et puis il y a ce que j'appelle les curiosités comme Evidence, un titre groove à mort, Stair AD qui mixe les influx funk, jazz, Caralio Boador, mid-tempo Bossa Nova ou Take This Bottle et ses accents bluesy. A l'inverse, Face No More nous balance aussi sur King for a Day, Cuckoo for Caca ou Ugly in the Morning, des titres plus frontaux et plus directs, où la violence en tout cas musicale est de mise. Le dénominateur commun entre tous ces titres, Mike Patton, le chanteur du groupe qui encore une fois impressionne par l'étendue de son registre vocal. Côté production, Face No More avait bien fait les choses et n'avait pas lésiné sur les moyens en faisant appel au très expérimenté Andy Wallace, qui durant les 90s avait déjà contribué au succès des albums de Slayer, Sepultura, Rollins Band, Sonic Youth, Helmet, Rage Against the Machine, Nirvana, Bad Religion ou Jeff Buckley, ce qui en dit long sur son ouverture d'esprit et sur son savoir-faire. À l'arrivée, King for a Day, c'est même le disque référence de Face No More, c'est celui qui lui a permis de gagner pas mal de fans, et c'est aussi un disque qui fêtera l'année prochaine ses 20 ans et qui n'a pas pris une ride, contrairement à Angel Dust, son prédécesseur, qui lui, je trouve, a assez mal vieilli. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, je vais refermer d'une seconde à l'autre la parenthèse spatio-temporelle. Moi, je reste ici pour vous concocter le prochain épisode de Si les 90s m'étaient comptés. Rendez-vous dans 2 semaines, soyez à l'heure, d'ici là, prenez soin de vous, bye bye.
step beside the peace of the circumstance. Gotta